sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Alors, Donald, bienvenue à l'émission Le Parc en 30 minutes devant le public.
Oui, c'est une première.
Une première. Donc, très content. On pourrait expliquer aux gens qui ne seraient pas familiers avec l'émission Le Parc en 30 minutes, c'est que depuis septembre 2024, à chaque semaine sur les ondes de Via 95, j'ai le privilège, le plaisir d'animer cette émission Le Parc en 30 minutes qui parle du parc industriel de Bécancour. Et à chaque émission, Donald Olivier, qui est le PDG, se rend disponible pour répondre aux questions. Puis on invite différents intervenants, différentes entreprises à se faire connaître autour de ce micro. Donc, on voulait faire une pierre deux coups aujourd'hui. On avait ce panel avec Donald, mais on dit pourquoi pas transformer ça en une émission, aussi le parc en 30 minutes. Alors, c'est un petit peu l'idée. Et peut-être pour ceux qui, les rares qui connaissent pas Donald Olivier, rappeler que Donald occupe le poste de président-directeur général de la SPIB depuis mai 2022. Auparavant, il avait été en charge de la fermeture du déclassement de la centrale nucléaire Gentilly 2. Et toujours pour Hydro-Québec, il fut aussi responsable de l'exploitation de 60 barrages, donc on a parlé de barrages ce matin, et 14 centrales hydroélectriques de la région Mauricie-Centre du Québec. Donc, c'est le parcours de Donald. Et donc, ce midi, lors de cette émission, de cette présentation devant public, Donald, je pense que le moment est idéal, et c'est l'idée aussi de cet événement du nouvel an économique de la Chambre de commerce, de faire le point. On a fait le point tantôt sur l'économie pour ceux qui étaient ici dans la salle, mais pour le parc industriel de Bécancour, évidemment, tous les soubresauts de la filière batterie en 2025, peux-tu nous énumérer un petit peu actuellement, c'est quoi le portrait 2026 de ce qui se passe dans le parc au niveau de la filière batterie?
Oui, donc évidemment, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été nommé précédemment, l'instabilité, tout ce qui se passe au niveau géopolitique, c'est clair que ça a eu un impact. Parce que faut comprendre qu'aux États-Unis, vraiment, les politiques ont changé. Donc, au niveau environnemental, l'électrification des transports s'est décalée dans le temps, ou même, en tout cas, on ne met pas beaucoup d'énergie sur ça. Des projets solaires, des projets éoliens, le gouvernement des États-Unis met ça sur pause. On l'entendait tout à l'heure, drill, baby, drill. Donc, vraiment, on s'en va ailleurs. Donc, c'est sûr que tout ça a un impact parce que c'est une question de marché. Hein. C'est vraiment une question de marché parce que, donc, les fameux matériaux critiques et stratégiques, il faut des débouchés, il faut être capable de vendre cette production-là. Et assurément, le ralentissement vient de ce changement de politique-là qui crée une demande moins forte que prévu. Donc, c'est sûr qu'il y a une relation de cause à effet direct. C'est pas une question de volonté du fédéral ou du Québec. T'sais, parce que vraiment, Bécancour, le parc, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, on est vraiment choyé. On a été comblé autant du côté fédéral, parce que je le nomme, puis c'est déjà connu, mais le fédéral nous aide à hauteur de 50 % dans le projet portuaire. Donc, sur 328 millions, il y a la moitié qui vient du fédéral. Et puis, au niveau de toutes les infrastructures qu'on a développées, on a eu le gouvernement du Québec derrière nous. Fait que donc, l'enjeu n'est pas là. C'est vraiment un enjeu de marché avec le ralentissement des politiques au niveau des États-Unis. Et clairement, ceux qui lisent sur l'électrification des transports, vous êtes capables de voir que partout dans le monde, la croissance, elle est forte. Partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord, avec le changement de politique, où est-ce qu'il y a une croissance bien, beaucoup moins forte que prévu.
Et je pense que là, les gens seraient intéressés qu'on passe peut-être un par un les joueurs de la filière batterie, comme je peux te les énumérer.
Oui. Ah, je les sais par cœur.
Ah, tu les sais par cœur. Ouais. Parfait. Il me semblait aussi que tu savais ça un peu.
Je les connais par cœur. Et puis, il y a des représentants de certaines entreprises qui sont dans la salle. Fait que donc, dans la portion réseautage, vous pourrez aller échanger avec eux. Mais si je vais dans l'ordre qui sont arrivés, ouais. Ultium Cam, donc Ultium Cam, évidemment, c'est les premiers à avoir démarré la construction, vont commencer la mise en service d'une des premières lignes cette année. Et évidemment, le ralentissement pour eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas ralenti sur la construction, dans le sens que le bâtiment, tout ça est fait. Mais ils ont trois lignes de production. L'énergie va être construite consacrés sur la première ligne. Par la suite, vont tenter d'aller de l'avant vers une autre, mais la troisième, il y a vraiment un enjeu de marché. Donc, vraiment, c'est là que ça va se passer. On a Nemaska Lithium, il y a des gens ici, j'ai vu Denis Isabelle dans la salle tout à l'heure, mais Nemaska, le chantier avance quand même rondement. Et puis, on sort les chiffres globaux, on y va pas par entreprise, mais dites-vous qu'à chaque matin, c'est environ 2500 travailleurs de la construction qui vont sur un des chantiers du parc. Et la majorité vont sur le site de Nemaska Lithium de ce temps-là. Avant les fêtes, c'était beaucoup égal, mais Ultium Cam, le chantier avance. Fait que donc, c'est vraiment Nemaska. Et puis, leur production, ce qu'on appelle le cold commissioning en anglais, démarre sous peu. Fait que dans le fond, ça avance quand même bien. On a entendu des trucs sur les enjeux par rapport aux mines, mais le projet de Bécancour avance. Un autre dossier, Mirae, matériaux avancés, Mirae avance sans tambour ni trompette. Hein, donc, le projet avance et puis vont suivre les mises en service des autres usines. On a Air Liquide aussi qui avance. Et celui qui est sur pause encore, c'est EcoPro BM. Donc, EcoPro, c'est clairement un enjeu de marché. Donc, était supposé faire une entente avec Ford. Ford s'est retiré. Donc, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour écouler leur production. Fait que c'est vraiment la mise à jour sur les projets. Il y a Nouveau Monde Graphite, évidemment. On en a parlé beaucoup. Le projet de mine, je crois que c'est pratiquement ficelé au niveau du financement ou très près de l'être. Et l'usine va suivre bientôt. Fait que donc, c'est sûr qu'à surveiller en 2026, ce projet-là est quand même prometteur pour l'année qui s'en vient. Puis j'aimerais faire une parenthèse aussi parce qu'il y a les usines qui arrivent, mais on sait que pour attirer des usines, ça prend des infrastructures. Et puis, il y a 4 ans, donc moi, je suis arrivé en 2022 à la Société du Parc. On avait un projet de 350 millions à faire, c'est-à-dire construire des routes, construire des rails, enfouir des conduites, moderniser des usines. Il n'y avait rien de fait en 2022. Et là, on a pratiquement 95% terminé en décembre. Fait que donc, on parle que c'est important d'accueillir les entreprises et d'être prêt. Fait que de notre côté, on a réussi ce que je considère un tour de force de partir de 2022 sans études et d'arriver automne 2025, le projet est complété. J'avais déjà des cheveux blancs, mais j'en ai eu un peu plus dans ma première année quand je suis arrivé.
Donc, Vallée, on en a parlé hier, je pense.
Oui, bien, Vallée, c'est une opportunité. Hein, puis, pourquoi Vallée, on en a entendu parler? C'est parce qu'il y avait une étude d'impact. Puis, bon, les médias ont fait quand même couler beaucoup d'angles sur ce dossier-là. Mais je pourrais parler à chaque mois d'opportunités qui n'arriveront pas. T'sais, donc, c'est mon quotidien, moi, d'avoir des discussions avec des entreprises qui ont de l'intérêt, que finalement, le projet n'ira pas de l'avant ou va aller de l'avant ailleurs. Fait que moi, c'est mon quotidien, ça. C'est à chaque semaine, à chaque mois, je vis ça. Fait que donc là, cette opportunité-là était publique, mais mon répertoire d'entreprises avec qui on discute, je pense que je suis rendu à une 100-120 entreprises. Fait que donc, vous comprenez, ceux qui sont dans le démarchage, hein, souvent, le ratio, c'est quoi? Y a-tu 20-30 dossiers sur lesquels on va travailler pour qu'il y en ait un qui se concrétise. Donc, c'est normal d'avoir des opportunités qui n'arrivent pas. Mais clairement, l'impact des politiques américaines a eu un impact sur cette décision-là d'investissement. Parce qu'on parlait des tarifs douaniers, on en parle depuis longtemps, mais c'est pas tant les tarifs le problème, c'est carrément l'instabilité, l'inconnu. Donc, le climat instable qu'on vit là n'est pas propice à ce que les investisseurs prennent d'autres décisions d'investissement majeures.
Air Liquide, c'est une entreprise déjà dans le parc, mais qui a aussi peut-être des opportunités par rapport à la filière batterie.
Oui, effectivement, c'est un des projets qui avance bien tout près de la Société du Parc. Donc, sont là pour donner le service aux autres entreprises. Fait que ce dossier-là de 200 quelques millions aussi avance très bien. Fait que c'est pour ça que les dossiers... puis bon, les gens qui entendent des trucs dans les médias sur qu'est-ce qui aurait pu arriver, mais il faut voir que la Société du Parc, ce qu'on a vécu, là, c'est les dernières décennies, c'était assez tough. Là. Donc, pourquoi moi je suis fier aujourd'hui et qu'on doit tous être fiers, c'est que rappelons-nous Norsk Hydro 2005-2006, rappelons-nous fermeture de Gentilly 2. Donc, moi, je l'ai fermé, mais je n'étais pas là lors de l'annonce. Donc, ça a eu un impact majeur. Puis, on a eu quelques opportunités de projets qui sont arrivés 2015 à 2020. Mais, tu sais, d'avoir 5 projets qui démarrent en à peu près 18 mois, c'est du jamais vu. Là. Puis, les chiffres, c'est au 30 mai, c'était 3 milliards de retombées économiques au Québec, puis 1 milliard dans la région. On n'a jamais vu ça. Fait que peut-être qu'on va retomber dans un rythme plus normal. C'est-à-dire, ça serait peut-être bien d'avoir un projet par année pendant les années qui vont venir, au lieu d'avoir 5 projets en même temps, parce qu'on parlait de main-d'œuvre tout à l'heure. Là. C'est quand même un stress important, parce que les premiers travailleurs qui arrivent, c'est sûr de la construction, et puis ça amène quand même, ça sollicite beaucoup les bassins de main-d'œuvre.
Là, on parle de conjoncture aussi, pas facile, mais aussi au Québec, bon, le premier ministre du Québec décide de démissionner. On est dans une année électorale, possible changement de gouvernement qui peut arriver à l'automne. On sait que, bon, qui dit gouvernement dit vision. On sait que la vision filière batterie, c'était celle de la CAQ. S'il y a changement de gouvernement, est-ce que la SPIB peut se retourner de bord si jamais, au niveau du gouvernement, on priorise autre chose ou différemment? Comment on prépare les choses de votre côté là, par rapport à un changement possible de gouvernement?
Ben, je vais être assez pragmatique là-dessus. Hein. T'sais, un investisseur privé qui arrive, c'est lui qui décide où est-ce qu'il va investir. Donc, le gouvernement peut peut-être faciliter, mais peu importe là, les 5 qu'on a nommés tout à l'heure ou ceux qui arrivent, là, c'est l'entreprise qui dit « OK, moi, j'investis au Québec ou pas. Si oui, j'investis à quel endroit ou pas. » C'est fait que, donc, je disais tout à l'heure que le gouvernement du Québec, ce qu'il pouvait faire pour nous appuyer, il le fait. Il l'a très bien fait. Il nous a donné les moyens pour déployer les infrastructures. T'sais, c'est majeur, 350 millions. Là. Fait que, donc, dites-vous, ceux qui connaissent le parc, là, la partie basse du parc, là, dites-vous que pratiquement tous les terrains sont desservis. Donc, une entreprise veut venir à Bécancour. Fait que, tu sais, moi, ce sur quoi je mise, Marc, là, c'est vraiment qu'on est prêt. On est prêt. Quelqu'un veut venir réaliser un projet à Bécancour. À chaque fois, je vois la ministre Fréchette, je dis « Madame Fréchette, moi, j'ai le pied sur la ligne de départ. Là. La SPIB a le pied sur la ligne de départ. Il y a un projet porteur pour le Québec, pour le Canada. Vous l'amenez ici, puis il va avoir du succès. » Fait que je pense que c'est ça notre carte. On a réussi à aller très, très vite. Et puis peut-être que c'était une de nos stratégies aussi d'aller vite avec les projets pour pas qu'il y ait de vulnérabilité par rapport au changement de gouvernement.
Tu dis, bon, on est prêt à accueillir de nouvelles usines. Il y a des terrains disponibles encore dans le parc?
Écoutez, là, c'est sûr, des chiffres, hein, c'est des fois, c'est tellement grand que ça ne dit plus rien, mais c'est environ 700 hectares de terrain qui restent encore à Bécancour. Donc, un projet comme Nemaska, si je ne me trompe pas, c'est autour de 50 d'hectares le terrain. Fait qu'imaginez-vous, c'est 700 hectares qui restent dans le parc. Fait que donc, c'est immense. Là. C'est immense comme potentiel. Et puis, l'atout qu'on a, tu sais, bon, on a eu des décennies difficiles, mais tu sais, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à gagner, là, puis au début, je pensais que c'était une blague quand François-Philippe Champagne disait que je me promène dans le monde, puis j'entends parler de Bécancour. Mais moi, quand j'ai eu une occasion de rencontrer les Japonais, puis qu'ils ont su que je m'occupais de Bécancour, tout le monde voulait ma carte. Et puis donc, Bécancour est connu dans le domaine industriel, là, aujourd'hui. Bécancour est connu un peu partout dans le monde, Australie, Japon, évidemment la Corée du Sud, qui est le partenaire qui a été choisi. Et puis, je fais juste aussi un clin d'œil là-dessus, c'est qu'on parlait que c'était important que le Québec pouvait faire une différence dans le développement économique. Je tiens à souligner que c'est vraiment Investissement Québec qui a sauté dans l'avion et qui est allé faire du démarchage en Corée du Sud, et qui ont réussi à faire arriver ces opportunités-là. Donc, il y en a 3 dans le parc présentement. Hein. T'sais, Mirae, Ultium Cam et Copro BM, ce sont tous des projets issus de la Corée du Sud, technologies de la Corée du Sud. Fait que donc, on a vraiment un terreau fertile pour accueillir d'autres dossiers.
Donc, vous avez des terrains pour une éventuelle usine chinoise de véhicules électriques?
Ben, écoute, tu mets la table sur, évidemment, les différentes annonces. Et puis, on vit une situation quand même particulière. C'est que les Américains qui étaient intéressés à venir investir au Québec, c'était pour s'affranchir de la Chine. Et puis là, on voit que le gouvernement veut provoquer quelque chose avec la Chine. Je pense qu'on peut juste être content qu'il se passe quelque chose.
Donc ça, t'accueilles favorablement ça.
Ben, écoutez, on a les minéraux critiques et stratégiques. On a l'énergie verte pour les transformer. Et puis ce potentiel-là, il est là. Les minéraux critiques et stratégiques, là, ils sortiront pas du sol demain matin tout seul. Donc, si on n'a pas de projet porteur demain matin, ça sera dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis, ce qui arrive avec la Chine, ben, tu sais, puis moi, je suis pas économiste, je suis ingénieur civil, fait que ce que je perçois, c'est que les plaques tectoniques économiques bougent. Donc, au moins, ils bougent, puis on a moins de chances de tomber entre 2 plaques avec ce qui se passe là. Et puis, il faut vraiment surveiller comment ces plaques tectoniques-là vont bouger, puis comment ça va se refiger. Ça fait que moi, je trouve ça quand même positif qu'il se passe quelque chose, parce que je serais surtout, tu sais, puis on ne peut pas leur poser la question, mais c'est sûr qu'ils se questionnent. Les constructeurs nord-américains qui voient ça arriver, sont-ils encore contents d'avoir levé le pied au Canada sur ces projets-là?
Ouais.
Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre l'espace.
On a parlé donc des perspectives par rapport à la filière batterie, la situation de la filière batterie, entente Canada-Chine. Par rapport à l'aspect, bon, il y a eu les infrastructures, les investissements, on en a parlé, Donald. Peux-tu nous parler aussi par rapport à cette surveillance de la qualité de l'air ambiant? C'est un programme qui est mis de l'avant, là.
Oui, bien, on parle de développement économique, mais aussi l'acceptabilité sociale qui est stratégique dans tout ça. Puis moi, j'ai un peu lancé la serviette pour tenter d'avoir une définition théorique de ce que c'est l'acceptabilité sociale, là. Je pense plus que c'est un comportement qu'on doit avoir, puis une attitude. Puis l'attitude, c'est peut-être aussi simplement que de prendre soin de notre monde dans un contexte de changement. T'sais, si on attend d'avoir l'unanimité, quelqu'un que tout le monde nous soutienne pour faire quelque chose, je pense que c'est pas réaliste. Fait que de prendre soin de notre monde dans un contexte de changement, dans ce cas-là, c'est OK, beaucoup d'usines arrivent, des questions légitimes sur quel est l'impact sur la qualité de l'air. Donc, nous, on a poussé ce projet-là, puis pour comprendre les entreprises, quel genre d'entreprise on a dans le parc, là, c'est que c'est une couche de surveillance additionnelle pour la qualité de l'air qui est au-delà des lois et règlements. Et il y a 15 entreprises du parc qui ont dit, oui, oui, on est prêt à mettre des sous là-dedans, et c'est une couche de surveillance sur leurs activités. Fait que donc, on a des gens, non seulement qui disent que c'est important, mais qui sont prêts à investir. Fait que moi, c'est un projet, tu sais, je pense que c'est des initiatives comme ça aussi que je vais être fier dans le futur, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, de dire, OK, ça, c'est en place. Fait que oui, c'est de quoi d'intéressant qu'on a mis.
Puis il faut qu'on souligne au passage aussi préservation d'espaces naturels, etc.
Oui, oui, pour les gens du coin, Petite Floride et le Mont-Tesson, donc air protégé, évidemment, on fait des projets, on sait qu'on atteint certains milieux humides. Une fois ça dit, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous, on s'est posé la question, on a étudié quels sont les secteurs où est-ce que la biodiversité est la meilleure. Et on n'a pas attendu que les citoyens nous mordent les mollets pour faire quelque chose. On s'est dit, nous-mêmes, on va protéger des aires naturelles. C'est même au plan stratégique de la société. Donc, c'est une priorité autant que d'accueillir des usines dans le parc.
Content de l'oublier, c'est le parc industriel et portuaire. Donc, le port, c'est fort important. Grand projet de modernisation, Horizon Bécancour, peux-tu nous en parler?
Oui, bien, le port était déjà à capacité pour la période de haute saison parce qu'on a beaucoup de cargo du Nord, donc il y a beaucoup de matières qui rentrent dans le parc pour que les usines opèrent. Mais il y a quand même le cargo général, toutes les communautés non reliées par réseau ferroviaire ou réseau routier, les communautés non reliées, mais les minières aussi qui exploitent dans le Nord. Donc, ça passe beaucoup par Bécancour. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on a 328 millions de projets qui consistent à ajouter un quai, prolonger deux autres quais et tout revoir la configuration pour être capable de transiter plus de tonnage. Donc, c'était pertinent en 2022 quand on a déposé cette demande-là. Et vous comprendrez que c'est encore plus pertinent aujourd'hui. Plus pertinent parce que si on veut diversifier nos marchés, ça partira pas par avion, ça va partir par bateau. Et puis, la chance que Bécancour a, là, puis on fait notre chance, là, c'est pas tombé du ciel, mais c'est que le 350 millions des travaux d'infrastructure sur la terre ferme, c'est pratiquement terminé. Mm-hmm. Le 328 millions de travaux sur au port, on a le financement et c'est une question de semaine avant qu'on officialise un contrat. Fait que donc, nous, on va aller de l'avant avec tout ça et puis on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et puis, le fameux ralentissement, quand est-ce que ça va partir? Je suis pas plus devin que vous. Mais assurément, quand ça va repartir, on va être prêt à saisir les opportunités.
Ce serait bon de souligner, Donald, que dans ce projet-là, il y a une approche novatrice pour la réalisation, un mode collaboratif. Hein?
Oui, oui. C'est pour ceux qui travaillent pour les organismes publics, la fameuse approche du plus bas soumissionnaire conforme, vous savez ce que c'est. Le gouvernement a émis un décret à peu près au printemps passé qui permet de faire des projets dans un mode différent. Donc, on a adopté pour un mode de réalisation de projets intégrés pour être capable d'être plus efficace dans la réalisation des projets. Donc, ce que c'est qu'on engage un ingénieur et un constructeur très tôt dans le processus et c'est un partage de risques avec les entreprises. Et puis, c'est une façon de concevoir le projet dès le jour 1 avec eux. Et la Société du Parc va être la première organisation des ministères organismes du Québec à aller de l'avant avec une approche comme ça. Et puis, on parlait que c'est important pour accueillir des investissements d'être efficace dans les travaux d'infrastructure qu'on va faire. Et je pense que ça va être de quoi vérifier. Puis, on va tout faire pour que ce soit un succès.
Donald, à chacune de nos émissions, on invite les gens à la radio à nous appeler, à nous écrire, à poser des questions. Mais on voulait prendre les 10 dernières minutes de notre émission, de notre échange, pour permettre aux gens de la salle, avant de déguster ce bon repas.
Puis si tu permets, Marc, j'ai oublié un élément que je pense qui est important. Tu sais, on a parlé de filière batterie. Nous, on parle plus de transformer les minéraux critiques et stratégiques. Et puis, puis Nouveau Monde Graphite, c'est clair, c'est public, leur stratégie. Puis, je voulais juste faire un bout là-dessus. C'est que valoriser nos minéraux critiques et stratégiques, là, oui, on peut adresser le marché de l'électrification des transports. Mais le marché de la défense est tout aussi important. Fait que ce que Nouveau Monde Graphite a comme approche, moi, je vous dis que c'est un peu la tendance qu'on observe, c'est-à-dire que les entreprises, pour gérer leurs risques, veulent adresser plusieurs opportunités d'écouler leur production. Fait que donc, ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'une usine qui voudrait raffiner des minéraux critiques et stratégiques à Bécancourt, la tendance, c'est de ne pas avoir uniquement comme source pour écouler leur production les batteries de véhicules électriques, mais aussi avoir les opportunités de défense. Donc, pour être moins vulnérable, puis on s'entend qu'il y a des investissements majeurs qui s'en viennent en défense, et puis c'est d'être capable de faire face aux variations qu'il pourra avoir dans le futur.
Très bonne précision, parce que effectivement, il y a cette valorisation des minéraux.
Oui, parce que tu sais, filière batterie, là, dans le fond, c'est un terme, mais en gros, là, c'est une batterie, c'est de valoriser les minéraux critiques et stratégiques qu'on a besoin pour fabriquer un véhicule et qu'on a besoin dans les batteries pour stocker l'énergie.
Donc, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. On a une question? Oui.
Oui, Guy Saint-Pierre, maire de Manceau. Donald, félicitations. Je t'aime bien. Je trouve que tu fais bien ta job. T'es correct. Félicitations.
Mais quand je la ferai moins bien, il faudra me le dire aussi.
Ben, c'est juste peut-être là-dedans que je veux embarquer. Je vais féliciter. Non, mais c'est pas.
Le
je vais féliciter via 90.5 de l'émission de radio que vous faites pour peut-être promouvoir, oui, le parc, promouvoir les industries, promouvoir ce qui se passe. À d'autres niveaux, là, ma question s'adresserait peut-être plus à l'ex-journaliste. Comment on pourrait convaincre les journalistes de parler un peu plus de nouvelles positives que de s'en tenir aux nouvelles négatives?
Très bonne question, mon Guy. Non, mais
excusez, ça m'arrive une fois de temps en temps.
Ben, écoutez, moi...
On peut passer à une autre question.
Non, c'est très... Non, mais écoute, je pense que c'est fort intéressant parce que, bon, on donne l'exemple de la filière batterie qui a mauvaise presse depuis un an. Mais lorsque c'est le temps, puis moi, si j'étais promoteur ou si j'étais politicien ou quoi que ce soit, moi, ça m'agacerait autant que ça t'agace, Guy, de voir que lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, lorsqu'on fait des conférences de presse pour annoncer des bonnes choses, les médias, beaucoup de médias se déplacent même pas. Puis quand ça va mal, là, ils t'appellent, puis là, je serais pas chanceux. Moi, si j'étais politicien, peut-être le journaliste serait pas chanceux, il m'appellerait seulement pour des mauvaises nouvelles. Là. Mais donc, tu sais, je suis entièrement d'accord. Écoutez, c'est la mauvaise nouvelle qui attire, qui intéresse. On est dans un monde comme ça, toujours, mais... puis ça, c'est pas pour me dédouaner, mais moi, mon approche journalistique dans ma carrière, ça a toujours été essayer de valoriser l'entrepreneur, valoriser les bonnes nouvelles. On n'a pas le choix aussi de dire les vraies choses et les mauvaises nouvelles quand il y en arrive. Alors, je pense qu'il y a une question de personnalité médiatique, mais je pense que la tendance générale d'un média, c'est de, malheureusement... chercher la bébite qui marche pas. Donald doit vivre ça aussi comme au quotidien, comme PDG. Bien souvent, on va l'appeler. « Hey, Donald, t'as-tu une bonne nouvelle à nous dire? » Non, on va te faire réagir sur des mauvaises nouvelles.
Oui, mais tu sais, puis Guy, moi, la façon que j'essaie de me débrouiller, puis je dis j'essaie parce que je peux pas avoir le contrôle sur les questions qu'on me pose, puis c'est bien normal, là, mais c'est, tu sais, je pense que les faits sont têtus. Tu sais, les faits sont têtus, c'est que c'est pas facile, mais il y a des projets qui avancent, il y a des retombées, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à vouloir focusser sur ce qui est plus difficile. Moi, je pense que, tu sais, je parlais de fierté tout à l'heure, ben, en tout cas, moi, je suis fier de ce qui se passe dans la région, puis je pense que si collectivement on est fier, ben, regarde, on verra bien dans 10, 15, 20 ans, tu sais, parce qu'on parlait d'hydroélectricité, là. Tu sais, moi, je suis un ancien d'Hydro-Québec, là, puis quand je m'occupais des barrages de Saint-Maurice, là, je me disais, crime, sont donc bien chanceux, ceux qui ont contribué à ça à l'époque. Mais tu sais, Shawinigan 2, il y a un groupe qui a été mis en service en 1910 puis il roule encore. Fait que donc, où je veux en arriver, c'est que ce qu'on fait là, on ne peut pas juger du succès d'une nouvelle approche sur quelques années, encore moins pendant qu'on la construit. T'sais, donc, c'est comme si on aurait dit au début, en 1905, de dire, OK, l'hydroélectricité, je ne suis pas sûr que ça va être un succès parce que, regarde, tel projet est difficile. Fait que je pense qu'on est un peu dans le même genre de situation, que les minéraux critiques et stratégiques s'est rendu vraiment important partout sur la planète. Et puis, peu importe le rythme auquel on va avoir du succès, mais le succès va se mesurer en décennies et non en année, et surtout pas en année de construction d'une nouvelle business.
Question?
Une question pour Donald Olivier, mais avant, je vais faire du pouce sur ce que monsieur a dit. En profiter pour remercier Marc Rochette, le nouveliste, et ICI Média d'avoir toujours publié nos communiqués de presse quand on avait des bonnes nouvelles à annoncer. Si vous trouvez que c'est négatif des médias, ben suivez Groupe Chiffre, on va être super contents.
Merci.
Mais plus sérieusement, je sais qu'on parlait tantôt, Donald Olivier, de protection des bandes riveraines, protection du lieu, de l'écosystème là-bas, mais qu'en est-il de la pollution, genre de la lumière le soir? En fond, moi, je demeure à Saint-Célestin, puis on voit quand même qu'il y a beaucoup de lumière dans le parc industriel qui font en sorte que, bon, les nuits sont moins noir que...
La pollution visuelle.
Pollution visuelle par l'éclairage de nuit, surtout, là, qu'on voit quand même loin dans le ciel.
Oui, donc, et puis je sais exactement de quelle usine les questions. Là, ils ont besoin de lumière la nuit pour faire pousser leur plantes. Mais tu sais, il faut voir que le parc, hein, c'est comme chaque entreprise est responsable d'aller chercher ses permis. Puis après ça, nous, on n'est plus nécessairement dans la ligne. Mais c'est important, si vous avez... quand il y a ce genre de situation-là, je suis obligé de dire que c'est le ministère de l'Environnement qui reçoit ces genres d'affaires-là. Et puis, je l'ai constaté moi-même. Je m'en venais il y a quelques semaines et puis je voyais le halo dans le ciel et puis on le voit vraiment à une quinzaine de kilomètres, on voit ce halo-là. Il n'est pas toujours là parce que parfois il est fermé, mais je vous invite, si jamais il y a des trucs, oui, on peut être une courroie de transmission, mais c'est le ministère de l'Environnement parce qu'on peut dire que c'est la pollution lumineuse, donc c'est un impact qui peut être négatif pour la population.
Autre question?
Oui, bonjour, M. Olivier. Une question pour vous. Je suis Benoît Nadeau de la compagnie Englobe, une firme de génie. En fait, tout à l'heure, vous avez fait allusion à plusieurs entreprises qui vous approchaient constamment, tout ça, et effectivement, plusieurs projets en cours avec les 328 millions. Quels sont, en résumé, les plus gros enjeux que vous avez globalement pour la réalisation, bien sûr, de ces projets-là, actuellement et dans les prochaines années, ce que vous voyez? Un peu plus tôt, on a fait allusion aussi à la main-d'œuvre manquante, mais en fait, est-ce que c'est une combinaison, effectivement, de la main-d'œuvre, bien sûr, de l'accompagnement de certaines firmes, de la capacité d'accueil ou l'ensemble de tout ça? Fait que, question à développement.
Bien, je vais tenter d'y répondre le mieux possible. Les projets en cours, mettons les projets qui sont déjà annoncés, qui vont de l'avant, c'est sûr qu'une usine, exemple, de 300 travailleurs en opération, bien, va avoir peut-être 1500 travailleurs en pointe pendant la construction. Ça fait que le stress de main-d'œuvre, le stress sur le trafic arrive très, très tôt. Et puis, je vous dirais qu'avec la quantité de projets qu'on a en même temps, c'est difficile, mais la main-d'œuvre a réussi quand même à être trouvée pour faire avancer ces dossiers-là. Mais clairement, si les projets avaient été étalés dans le temps, je pense que ça aurait été plus facile pour certains. Et puis, ça, c'est pour les projets en cours. Puis, on s'entend qu'il y a quand même des enjeux de logement et tout ça. Mais les travailleurs de la construction viennent la semaine, repartent la fin de semaine. Fait qu'on a peut-être des standards différents pour se loger que quelqu'un qui vient pour 5 ans, 10 ans, 15 ans avec sa famille pour travailler dans une usine. Fait que ça se passe quand même pas si mal. Mais pour ce qui est des enjeux, je vais parler, en tout cas, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi l'ampleur de la question, mais pour les investissements à venir, donc pour les nouveaux projets, je vous le dis clairement, l'enjeu, c'est un enjeu, c'est les marchés. T'sais, c'est carrément les marchés, mais après ça, très vite, c'est l'enjeu de l'énergie. Donc, on sait que Hydro-Québec doit fournir plus d'énergie sur les réseaux. Donc, ils ont des projets d'approvisionnement. Il y a justement un 300 MW d'énergie solaire qui vont recevoir des propositions jusqu'à la fin mars. Mais c'est vraiment un enjeu majeur parce que donc les usines qui arrivent dans des parcs industriels importants comme celui de Bécancour, c'est rarement quelques mégawatts qu'ils ont besoin. Ça va être des 5, 10, 15, 20, 30, des dizaines de mégawatts. mégawatts. Fait que donc, c'est ça, on a un enjeu pour les prochaines années. Puis quand j'ai un enjeu, c'est pas qu'il n'y en a pas de mégawatts, mais c'est que c'est pas l'abondance. Fait que c'est vraiment important de faire les bons choix, de trouver les projets qui auront le plus d'impact à moyen terme, considérant que les mégawatts sont pas infinis. Mais évidemment, Hydro-Québec va en amener davantage sur le réseau. On sait que le solaire et l'éolien, c'est la façon d'aller le plus rapidement. Mais l'hydroélectricité, c'est sûr qu'il y aura d'autres projets, mais un projet hydroéloélectrique comme la Romaine, à partir du moment qu'ils ont annoncé la Romaine, ça a pris 10 ans avant qu'un premier groupe soit mis en service. Puis c'est un délai normal considérant la complexité de ces dossiers-là puis l'éloignement. Mais tu sais, fait que donc, je dirais les principaux enjeux, là, c'est vraiment le marché, mais aussi carrément les mégawatts pour soutenir des projets.
On a le temps pour une dernière question dans le fond de la salle.
Allô, oui. Oui, Philippe Dumas. En fait, j'ai une question par rapport aux investissements à la défense. Par rapport, bon, il y en a qui l'ont souligné, je peux en parler, mais point de vue indépendance, on va voir l'importance de Bécancour et c'est la transformation des minéraux critiques au parc, autant dans la transition écologique qui maintenant énergétique et maintenant au point de vue de la défense. Comment vous voyez avec la SPIB, en fait, est-ce qu'on ne manque pas des opportunités d'investissement et surtout à long terme au Québec quand, en fait, on a au Canada, on nous demande de mettre de l'eau dans notre vin et de ralentir cette transition énergétique-là qui est nécessaire et surtout porteuse à très long terme. Et en ce moment, avec un recentrage vers la défense au point de vue du parc industriel, c'est tout à fait logique. Les minéraux critiques ont besoin de plusieurs débouchés pour être développé de manière responsable. Mais au point de vue sur la scène internationale, est-ce que ici on ne parle pas un peu des deux côtés de la bouche? D'un côté, de dire on doit mettre de l'eau dans notre vin, ralentir, ben en fait, faire la promotion de nos hydrocarbures qui sont moins pires qu'ailleurs. Et de l'autre côté, toujours être promoteur de cette transition énergétique-là à long terme et d'assumer un ralentissement d'investissement ou du moins de projet dans le parc industriel.
Ben écoute là-dessus, Philippe, mettons, je vais te répondre sur carrément ce que le plan stratégique de la Société du Parc amène. Puis le plan stratégique, ce qu'on veut attirer comme entreprise dans le parc, là, on voudrait que 8 projets sur 10 soient reliés à des dossiers, des projets de décarbonation ou technologie verte. C'est un choix qu'on a fait. Fait que ça veut dire qu'on dit pas 10 sur 10, mais on dit 8 projets sur 10 devraient être dans ces créneaux-là. Et puis, on n'est pas fermé à d'autres projets. Mais clairement, la tendance lourde, c'est décarbonation et technologie verte qu'on souhaite. Et puis, par rapport à cette transition-là, bon, la fédérale, les fameuses cibles de véhicules électriques à atteindre pour tel horizon de temps, écoutez, c'est très difficile de savoir. Surréaliste ou pas, assurément, c'est ambitieux, mais je pense que c'est chacun d'entre vous qui allait dicter la vérité, c'est-à-dire de quand est-ce qu'on va réussir, qu'on va acheter un véhicule électrique. Et évidemment, je pense que ça passe aussi par des véhicules électriques abordables. Fait que, au-delà des politiques gouvernementales, tu sais, je disais tout à l'heure qu'un investisseur qui veut investir, là, c'est lui qui décide. T'sais, c'est lui qui décide où il met son argent puis dans quel créneau. Ben, les consommateurs, vous êtes tous des consommateurs. C'est vous qui allez décider quand vous allez en acheter un, peu importe la politique, tant qu'à moi. Et puis les soutiens du fédéral et du provincial, c'était pas vraiment correct pour donner une impulsion, mais ça prend des approches plus durables. Puis d'avoir des véhicules électriques plus abordables, je pense que c'est essentiel. Dans 10, 15, 20 ans, on se dira, OK, on verra ce que ça a fait, l'annonce récente avec la Chine. Mais clairement, moi, je pense que c'est beaucoup plus là, Philippe. Puis je veux pas minimiser l'appui des gouvernements, mais je pense que pour nous, l'appui des gouvernements, c'était beaucoup pour nous soutenir à construire les infrastructures de base qui font que sans ça, les gens viennent même pas. T'sais, donc, sans ces infrastructures-là, ils viennent même pas à Bécancour, alors que là, on est rendu une plaque tournante. Hein, parce que mine de rien, on n'est pas là pour se péter les bretelles, la SPIB, à tous les jours. Mais faites une recherche au Canada et puis vous allez savoir, vous allez trouver que le hub, où est-ce que la transformation des minéraux critiques et stratégiques prend racine, c'est ici. T'sais, en Ontario, il y a quelques projets à gauche, à droite, il y en a qui sont moins avancés, mais nous, vraiment, d'avoir ça concentré, puis c'est unique. Puis je veux juste rajouter aussi que t'sais, parfois, je vivais que, OK, Bécancour est en compétition avec plein de gens, plein d'autres sites, mais là, il y a des investisseurs qui nous voient, puis bon, c'est des trucs qui arriveront, le projet se terminera peut-être pas, mais l'argument, la réponse que j'ai des fois, regardez-vous d'autres sites, ils me disent non. Pour nous, c'est clair que le Carrefour, c'est ici, puis on veut être proche des autres qui ont pris racine. Fait qu'on va avoir du succès, Philippe, mais je ne suis pas capable de te prédire quand et puis à quel niveau, mais c'est sûr qu'on a tout pour réussir.
Merci pour les questions. Dernière question avant qu'on termine, Donald, rapidement, je me mets à la place de soi de fournisseur potentiel. Techniquement, là, quelqu'un qui veut faire affaire avec les entreprises du parc, est-ce qu'il passe par la SPIB ou directement par les entreprises?
Écoutez, c'est clairement les équipes d'approvisionnement. Puis donc, les usines qui produisent ont tous des directions ou des responsables d'approvisionnement. Ce qui peut être un peu plus difficile, c'est qu'une usine en construction, tu sais, quand on construit, on construit pas juste physiquement en coulant du béton, on construit l'équipe, on construit l'organisation. Fait que parfois, la personne à la pro n'a pas été engagée encore et tout ça. Fait que ça peut être plus difficile. Assurément, la SPIB peut aider, mais on se met pas, je vais dire, de travers dans le chemin. On veut pas être un intermédiaire, mais n'importe quelle entreprise qui a de la difficulté à rejoindre une entreprise, un donneur d'ouvrage du parc, c'est sûr qu'on va être un facilitateur, mais on n'est pas un entremetteur au quotidien pour s'assurer que tout roule rondement. Là.
Merci, Donald. C'est ce qui m'a fait à notre émission. Merci. Le parc en 30 minutes en direct, ou plutôt devant public, pas en direct, mais qui sera rediffusé le 2 février sur les ondes de Via 95. Mais on se retrouve en studio lundi prochain, Donald. Merci beaucoup, Donald Olivier, pour ta disponibilité et tes réponses.